I'm not surprised, motherfuckers.
Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cet épisode numéro 117 du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, on parle de One Fight Night 19. Belle petite carte hein, sur le papier. Celle-là, je l'attendais quand même. C'était une évidence que j'allais en faire un podcast. Carte qui était belle sur le papier, mais carte qui était aussi pas mal dans les faits. Hein. On a eu des beaux combats. Évidemment, One n'a pas pu s'empêcher de mettre quelques combats de MMA hein, sur cette carte hein, qui se passait au Lumpini à Bangkok en Thaïlande, hein, qui est évidemment un des grands temples du Muay Thai en Thaïlande. Alors, je vous propose uniquement de revoir les combats de Muay Thai qui se sont déroulés à cette soirée. J'ai vu vite fait le combat de Thong Poon qui a été assez fou. Hein. Victoire au premier round du Thaïlandais avec ce magnifique tatouage sur le torse. C'est un sacré le gaillard. Il y a une belle histoire sur lui d'ailleurs, Thong Poon, sur le site de onefc.com. Alors je ne suis pas là pour faire la propagande de One, vous me connaissez bien. Je suis là pour surtout parler des combats et des combattants. Mais c'est quand même une belle petite histoire autour du garçon qui nous a sorti vraiment un brawl de toute beauté dans ce premier round avec un KO avec les mains. Vraiment, ça a été une garde pas forcément des plus orthodoxes hein, côté Thong Poon, mais bon, c'est passé. Puis il a terrassé son adversaire, c'était cool. Mais je vais vous parler par contre d'autres combats sur lesquels j'ai vraiment eu un œil plus posé. Et le premier combat, c'était Wonder Girl contre Kirschinska, la polonaise qui était, il me semble, champion du monde WMC en Muay Thai, qui a de l'expérience donc internationale et qui était jetée dans le bain One Championship après l'abandon de Cardozo, la brésilienne. Hein, on devait avoir un combat en mixed rules chez One Championship. Bon, alors vous le savez, quand on est sur les One Fight Night, c'est régulièrement des cartes multidisciplinaires hein, avec du grappling, du pied-point, ça peut être et Muay Thai et kickboxing et aussi du MMA. Là, c'était majoritairement Muay Thai et comme je vous l'ai dit, ça ne gênerait pas de mettre uniquement du Muay Thai même sur une carte Fight Night, pourquoi pas, surtout Lumpini, mais One, évidemment, ne peut pas s'empêcher de mettre du MMA. Et puis, c'est absolument pas pour cracher sur le MMA. Hein. Vous savez que je suis un amoureux du MMA, bien sûr. Hein. Mais chez One, des fois, les catégories sont pas les plus folles. Et des fois, les combats peuvent être sentis un petit peu forcés sur les cartes. Et ces combats-là, on faisait partie. Malgré tout, je m'évade. On repart sur Wonder Girl. Voilà, je vous le disais, elle devait se battre contre Cardozo, une brésilienne en mixed rules. Il me semblait que c'était un peu de Muay Thai, un peu de boxe ou un peu de kickboxing et un peu de MMA, quelque chose comme ça. Hein. Vous savez, One, ils aiment bien faire ça. Il y a des combats pour lesquels ça marche bien, c'est rigolo. Il y en a pour lesquels c'est une catastrophe. Celui-là, bah, écoutez, j'en attendais pas grand-chose. Mais au final, bah, Cardozo a step out. Et c'est la Polonaise Kirschniska qui est arrivée pour prendre ce combat en short notice. Hein. Donc bravo à elle parce que aller chercher Wonder Girl en Thaïlande. Et puis en plus, une belle... belle performance de la part de la Polonaise, je ne la connaissais pas, je l'ai découvert sur cette carte, j'ai regardé un petit peu ce qui s'était passé dans sa carrière avant ça, et puis c'est elle qui a été l'agresseuse, clairement au niveau du striking, on est en Muay Thai, dans les 30 premières secondes, hein, Wonder Girl se faisait manger sur les attaques en ligne, je la trouvais vraiment dépassée Wonder Girl sur ce combat-là, que ce soit dans le premier ou dans le deuxième. La Polonaise a passé beaucoup de points avant de setter des kicks. Alors celle-là, elle le faisait beaucoup. Hein. 1, 2, 3, 4, bam, avec un kick. Hein. Puis elle variait les niveaux sur son kick. Ça, c'était pas mal. Envoyer un low kick, envoyer un middle, envoyer un high kick. Évidemment, ça, c'est une combinaison, une technique, une tactique plutôt qu'on voit souvent de genre insister avec des kicks plus vers le bas et plus vers le milieu pour à un moment donné lever et puis essayer d'aller chercher un head kick KO. Écoutez, c'est pas forcément ce qui s'est déroulé, mais je trouve que Kirschinska a géré sa tactique vraiment tout du long. Les séquences de clinch, par contre, dans le premier round, étaient assez stériles en fin de round. Je trouve que la Polonaise est vraiment bonne dans le pur pied-point. Et Wonder Girl a clairement perdu ce premier round. Deuxième round, Wonder Girl veut commencer fort avec des middle kicks, mais c'est toujours la Polonaise, je trouve, qui pousse avec ses 1, 2, 3 et kicks, et 1, 2, 3 ou 4 et kicks. Wonder Girl se retrouve vraiment direct, vite, dans les cordes, et Wonder Girl, surtout, ne set pas ses kicks. Ça, c'est vraiment été un problème, mais ça, c'est, je pense, aussi parce qu'elle était dépassée au niveau de ce combat, c'est qu'elle ne préparait pas ses kicks. C'est très important hein, dans tout le, dans la plupart des sports de combat qui incorporent des coups de pied. C'est important de les préparer. Hein. Vous ne pouvez pas juste les envoyer. Certes, il y en a qui savent les faire en one shot et ça peut se faire, mais généralement, il faut que ça se prépare. Et je trouve que ben, Wonder Girl ne les préparait pas. C'était un peu des coups parasites qui n'apportaient pas grand-chose au niveau de la tactique, au niveau de la technique. Il n'y avait pas de game plan. C'était vraiment envoyé pour envoyer. Puis c'était pas vraiment envoyé de la meilleure des façons, comme je vous le dis, parce que c'était pas préparé. La dynamique continue vraiment côté Pologne hein, avec Kierzniska qui ne baissait pas le rythme. Et ben, quand elle a commencé à voir Wonder Girl encore une fois dans les cordes dans le deuxième round, elle a commencé à ajouter et des coudes, etc. Enfin bref, Wonder Girl était vraiment dans une sale situation dans les cordes. Et puis au final, ben, c'est Olivier Coste qui est intervenu pour stopper le tout. Combat qui a été arrêté et terminé. Pas d'avertissement sur un knockdown, c'était terminé direct. J'avoue que mais Wonder Girl s'est fait rouler dessus. Hein. Clairement, il faut le dire sur les deux rounds. C'est une des potentielles futures stars Thaï que One Championship voulait pousser, qui à un moment donné, hein, on pouvait sentir cette petite notion de privilège peut-être hein, pour la Thaï, pour Wonder Girl, mais au final, je trouve que niveau résultat, ben, ça a été compliqué pour elle. Elle a quand même pas mal de défaites sur ses derniers combats. Et ben, la Polonaise, par contre, c'est rien pour enlever à Kierzniska qui a géré. Je trouve qu'elle est vraiment, comme je vous le dis, arrivée en territoire hostile au Lumpini. C'est bien parce que maintenant, One remplit les salles, hein, comparé à ce qui pouvait se passer à Singapour, par exemple. Donc, d'arriver en territoire ennemi et puis de performer comme ça et vraiment d'agresser, d'avancer sur Wonder Girl, chapeau. Belle performance de la Polonaise. C'est cool, on va la revoir. C'est sympa d'avoir des étrangères en plus des tailles pour mixer le tout un petit peu dans le roster chez One. C'est cool. Voilà, une belle petite découverte que Kierzniska. Merci à la Polonaise. Et puis Wonder Girl, il va falloir se reprendre parce que ça tourne mal. Hein. Même elle qui s'essaye sur des mixed rules, etc. Elle disait qu'elle était déçue. Mais bon, après, peut-être que le changement d'adversaire pour elle n'a pas été facile. Hein, parce que clairement, elle s'est préparée pour un mixed rules. Elle se retrouve face à une strikeuse un peu dans le délire kickboxing européen. Pas du tout le même morceau. Donc, je peux comprendre sa frustration. Mais comme je vous le dis, ça commence un petit peu à peser niveau défaite pour Wonder Girl sur les dernières confrontations. Passons au prochain combat de chef, Luc Lessé. Alors lui, j'en ai dit du bien par rapport à son dernier combat face à Smoking Joe Natawood. Parce qu'il m'avait étonné, je vous dis, je ne le connaissais pas. Il n'a pas énormément d'expérience, hein, surtout de l'expérience aux US. Donc, de se retrouver lancé dans le bain comme ça face à Natawood, qui est lui un vieux de la vieille, hein, qui était clairement sur une pente descendante, mais qui nous avait sorti quand même un beau petit combat face à Tawan Chai. Donc, je trouve que Luc Lessé, même s'il avait perdu contre Natawood, avait montré quand même un beau cœur, une performance, un cœur de lion vraiment, et puis de la cardio, et le gars qui a rien voulu lâcher, puis un round de folie dans le troisième. Bref, les gens se sont rappelés de lui. Et puis c'est bien parce qu'il enchaîne, c'était ce combat-là, il me semble, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Et il enchaîne face à un autre Américain, Abba Solo. Et combat qui, ben, je vous avoue, m'a un peu moins plu que ce qu'on a vu contre Natawood parce que c'était, bon, certes, un peu moins la guerre. Et puis, on a vu un petit peu de carence technique, offensive, défensive, du niveau des deux côtés. C'était Abba Solo qui, dans le premier round, était plus agressif, hein, vraiment en début de round. Luc Lessé essaie d'utiliser son range dans ses jambes. Abba Solo, je trouvais qu'il avait les mains très basses hein, au niveau de sa garde. C'est Lessé qui catch un tip, et passe le premier sweep. C'était vraiment beau. Mais on était quand même dans le round de reconnaissance. Je trouve qu'il y avait beaucoup de jaugeage entre les deux. C'était pas forcément la grosse fête, le gros parti, la grosse bagarre directement dans le premier round. Deuxième round, laisse Abba Solo traîner dans la poche et directement connecte une main droite qui entraîne le premier knockdown. Ça a été dur de voir Luc Lessé sur un placement comme ça parce que bah, ça a été un peu décevant. Je vous parle au niveau de la technique et au niveau du fight IQ de traîner un peu dans la poche comme ça. Ça n'a pas été très malin et directement, il a été puni. Dès qu'Abba Solo, par contre, traîne dans la poche, Lessé enchaîne les coudes et Abba Solo est en difficulté. C'est compliqué hein, maintenant pour Abba Solo qui perd à la distance. C'est, comme je vous le dis, le range, le reach de Luc Lessé est bien meilleur. Et donc, du coup, c'est compliqué. Il se fait punir dans le clinch. En plus de ça, Solo, l'essai commence à prendre doucement le contrôle de ce combat. Et il prend la confiance, il ouvre sa garde et Abasolo le punit avec une directe qui l'envoie aussi au sol. Ça fait un knockdown de chaque côté. Et là, ça commence à être intéressant, le combat. Le combat s'est plus ouvert dans ce deuxième. Clairement, Luc Lessé y a laissé des plumes, il avait l'air cuit en fin de round. Et là, on se dit qu'on a un combat. Et là, comme je vous le dis, le fait que Lessé prenne cette confiance et qu'il soit trop coquille au niveau de sa garde, etc., beaucoup moins de discipline dans sa garde et dans ses déplacements, le fait qu'il se fasse punir, ben... voilà, ça montre la limite un petit peu de son Muay Thai. C'est trop tôt pour parler, j'ai vu que deux combats de sa part, mais comme je vous le dis, de ce que je vois, c'est ce que ça m'a dit. Troisième round, un peu moins de discipline de la part des deux combattants, il y a un peu plus la fatigue qui rentre en jeu, etc. Lui, Abasolo passe son temps, les bras grands ouverts, hein, il passe des types, vraiment avec les deux bras écartés. Luc Lessé a aussi une mauvaise garde et se fait connecter. Abasolo mange beaucoup de jabs et là on se dit que tout peut arriver. Là ça commence à être sale, ça commence à être moche, mais ça reste plaisant à regarder malgré tout, c'est fun. Il y a de la violence, ça s'enflamme au milieu du round, de gros échanges, de grosses patates. Hein. On va aller chercher des one shots, qui peut aller chercher un KO et coucher son adversaire. Par contre, Abasolo fonctionne mieux quand il applique des combis. Hein. C'est bizarre, hein. Quand on s'applique un peu plus, ça marche mieux. Plutôt qu'essayer de passer uniquement des one-shot avec beaucoup de power. Luc Lessé insiste sur les gros crochets. Hein. C'est lourd en puissance et puis c'est clair, ça fait tanguer son adversaire. Jusqu'à la fin, on se met dessus avec des gros one-shot. Mais alors là, bon, clairement, c'est fun, mais c'est pas super beau. Le deuxième a déclenché le combat, mais le troisième, les deux sont arrivés un peu crevés et avec beaucoup moins de discipline, beaucoup moins de technique, c'était pas ce qu'il y avait de plus beau. Luc Lessé gagne à la split decision, alors ça l'aide parce qu'il avait perdu son premier combat, mais moi, j'étais plus impressionné clairement par Luc Lessé face à son combat face à Natawood que dans ce combat-là face à un adversaire qui lui aussi a montré des lacunes dans son Muay Thai. Pas forcément impressionné. C'est là-dessus que je vais finir pour ce combat-là. Mais clairement, il y a un marché à aller chercher aux States. Il faut développer son roster. Il faut essayer d'avoir des combattants d'un peu partout dans le monde pour pouvoir développer la marque, le viewership, etc. etc. Donc, Luc Lessé, malgré tout, c'est quand même une bonne pioche pour One. Ils vont le garder et puis je pense qu'ils vont continuer de le faire tourner. Clairement, il a plus de potentiel de stardom ou alors d'attraction du public que Abasolo. Alors ça, clairement, clair et net. Mais après, est-ce qu'il est vachement meilleur que lui? Ben, pas tant que ça, j'ai envie de dire. Mais la suite nous en dira plus. Merci de chef pour le combat et bravo Abasolo aussi pour rentrer dans le ring et se mettre dessus malgré tout. Le combat suivant, c'était Liam Nolan qui nous vient du UK face à Trujillo, l'Espagnol. Et ça marche bien hein, pour les Espagnols en pied-point chez One là, avec Fernandez, etc. C'est pas mal quand même, il y en a beaucoup qui tournent. J'en ai vu aussi tourner, je peux pas citer tous les noms, dans les Friday Fights. Je veux dire, l'Espagne, ça pousse au niveau du pied-point, c'est cool, ça fait plaisir de voir des nouvelles nations qui se développent comme ça. On sait que le UK, il y en a eu régulièrement. Hein, et puis bon, là, on parle de One, donc évidemment, et puis il y a l'autre qui se bat. On va garder ça pour, évidemment, pour le main event, on en parlera plus tard. Mais là, Liam Nolan, que j'ai vu se battre plusieurs fois, hein, quand même, qui a une belle puissance de kick, qui, évidemment, a envoyé beaucoup de kicks. C'est lui qui poussait Trujillo dans les cordes directes. La puissance de ses kicks m'impressionne toujours autant. Alors là, comme je vous disais, il faut les préparer. Mais quand on a vraiment une belle technique comme ça, qu'on a la bonne distance, etc., c'est pas forcément obligé de lancer un jab à chaque fois avant ou alors de lancer une combi, etc. Malgré tout, c'est aussi pour jauger la distance et ça, il le faisait bien. Mais tant qu'à faire, un peu placer un petit peu de puissance, ça peut faire du bien. Lui, Trujillo, a eu toute la misère du monde à trouver la distance, son range. Hein, Nolan est plus grand. Nolan passe des single kicks tranquilles, round assez tranquille, hein, mais c'est Nolan qui finira un petit peu plus fort. Donc, premier round pour le Brit. Deuxième round, énorme début de round pour l'Espagnol. Trujillo qui passera, va pousser son adversaire avec des combinaisons vers les cordes, passe un gros crochet gauche et termine avec un Tomahawk Elbow qui sèche Nolan. Hein, il y aura beaucoup de sang d'ailleurs. Direct qui part directement au sol, par contre qui se relèvera vite. Mais ça aurait été un des gros moments, hein, ce bel enchaînement crochet du gauche et bam, un gros coup de pleine face. Ça saignait beaucoup, c'était beau. Trujillo pousse toujours hein, contre les cordes et on sent que il a laissé des plumes. Nolan circule autour hein, mais continue de prendre des coups. Il fait ce qu'il faut faire mais clairement il y a laissé des plumes, ça a été dur pour lui. Il se retrouve encore dans les cordes, il travaille sa longue garde en mode survie. Trujillo lui travaille les niveaux, hein. Il va aller chercher du haut bas, des coups au corps. Quand on voit que son adversaire tombe pas forcément, aller chercher des coups au corps. Et ça, il le fera bien. Deuxième round, très très bon pour l'Espagnol. Alors là, du coup, on est un petit peu dans l'égalité, hein. Je dirais un round chacun. Et le troisième round, Trujillo enfin trouve sa distance. Ça y est, il réussit à jauger la distance, à jauger le reach de son adversaire. Ça l'a beaucoup aidé. Et vraiment, c'est une belle découverte, hein, cet Espagnol. On voit que Nolan veut scorer des points. Nolan retravaille ses kicks. Hein, il est vraiment retombé dans les basics, mais Trujillo, lui, est resté prudent. On voit que Nolan a essayé de préparer cette main arrière hein, dans les 20 dernières secondes, 30 dernières secondes, mais il n'a jamais eu l'opportunité. Et puis, évidemment, Trujillo ne lui a pas laissé cette opportunité. Il a bien circulé. Il a eu du bon footwork. Et puis, encore une fois, il sortait du bon côté de son adversaire, il restait à la bonne distance, rentre pas super actif, mais Trujillo a fait ce qu'il fallait pour gérer, et puis c'est lui qui a clairement éclaté Nolan avec le damage dans le deuxième round. Hein. Alors certes, il y a la notion des rounds qui compte dans le scoring en Muay Thai, mais le damage et puis l'effectiveness. Je trouve pas mon mot français. Est-ce que c'est efficace? L'efficacité, oh là 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 là, l'efficacité de la technique, hein, notamment avec, comme je vous le disais, avec cette combinaison qui a envoyé Nolan Osson, bah, est passée au-dessus, donc ça lui donne la victoire. Et sur le scoring du Muay Thai, que l'Espagnol Trujillo gagne ce combat, bah, écoutez, ça fait du sens. Et puis grosse victoire parce que Nolan, c'est un beau prospect hein, dans sa catégorie. Donc belle victoire de l'Espagnol, franchement, ça c'est cool pour le pays. Et puis il va revenir, ça fait 3 de suite pour Trujillo, ça va bien pour l'Espagne. Chez Juan, le damage était infligé par l'Espagne sur le UK. Bravo à commencer son prénom Naoset Trujillo, l'Espagnol. Vraiment beau combat. Le combat suivant qui m'intéressait, vous remarquerez que je zappe directement le Muay Thai, le MMA pour passer au Muay Thai. Un combat qui m'intéressait énormément, c'était Saïma Petch Fairtex face à Mohamed Younes Rabah. Alors pourquoi ils ont refait ce combat-là directement? Bah parce que Mohamed Rabah avait gagné le premier combat, mais il y avait un petit litige sur le fait que Rabah ait envoyé un genou alors que son adversaire était en train de tomber contre les cordes, donc limite au sol, enfin là, quand on parle du pied-point et du Muay Thai ou du kickboxing, là, quand vous êtes en train de tomber avec un genou, enfin bref, là, il n'y a pas d'amalgame, quoi. C'est vraiment coup au sol quand l'arbitre avait dit que c'était fini et puis il n'aurait pas fallu l'envoyer, du coup. Ça fait un peu polémique. Et bravo à Rabah qui a accepté directement le combat. Après, avait-il le choix hein? Ça, on sait une autre histoire. Malgré tout, pour le narratif, d'avoir refait ce combat et puis la façon dont ça s'est déroulé, on a été super gagnant. Clairement, on a été gagnant parce que quel fight de Saïma Petch Fairtex. Je veux dire, l'instinct de killer de la part du Thaï était effrayant. Saïma Petch a droppé Rabah, dans les 40 premières secondes en étant vraiment très, très agressif avec les mains. Alors que c'était Rabah qui poussait tranquillement contre les cordes. Donc, le calme du Thaï a été exceptionnel. Quand il est rentré dans la poche avec un 1-2 pour connecter, ça a connecté très bien. Il a continué avec les points, il a droppé l'Algérien sur le troisième strike. Rabah se fait dropper directement. Alors, le combat s'est terminé en 90 secondes dans le premier round. Rabah se fait dropper directement et en se relevant, il dit qu'il est correct, etc. Mais il reste un peu sur place et il était dans le coin du ring alors que le Thaï, lui, est resté vraiment pas loin de lui, plus vers le milieu du ring, prêt à attaquer. Et c'est ça, je pense, qui est à la fin, a terminé le combat. A terminé le combat. Je parle pas de ça a fait toute la différence, etc. Mais clairement, le fait qu'il soit planté comme un piqué un peu dans le coin en attendant que son adversaire avance vers lui, c'est un pitch à repasser un 1-2 et puis il l'a dégommé directement, quoi. Quelques combis pour le redropper, c'était terminé, quoi. Je veux dire, le deuxième 1-2 a été compliqué. Ça a envoyé directement Rabat au sol. Enfin voilà, ça a été 3 knockdowns d'affilée, quoi. Ça a été dur. Moi, je vous dis, c'est clairement le deuxième knockdown qui a terminé le combat et pas forcément le troisième parce que ça a été tellement vite et il est tellement resté dans les cordes qu'il est tellement resté bloqué là-dedans. C'était un peu fini après le troisième. Le deuxième était évitable. Comme je vous le disais, genre vraiment resté bloqué sur ses appuis comme ça dans le coin du ring après un premier knockdown. C'est chaud, il s'est fait dropper sur un 1-2, quoi, directement simple en ligne, bim bim, terminé. Puis le troisième, quand le Thaï a commencé à foncer vers lui, à le bloquer dans les cordes et commence à continuer les combis, il s'est retrouvé encore une fois sur le cul. Et puis, Olivier Coste est intervenu pour terminer le combat. Ce qui m'a vraiment le plus impressionné, c'est, je vous le dis, hein, le côté clinique et calme du Thaï. Qui a absolument pas bronché, alors que Rabat était assez en confiance au début du round. Alors, comme je vous le dis, hein, je crois que ça s'est déroulé en 90 ou 100 secondes, donc c'est compliqué de faire un bilan complet sur un combat aussi court, mais ce deuxième knockdown, je pense, était évitable, mais props au Thaï, quoi, qui est arrivé couteau dans les dents avec un esprit, mais vraiment ultra agressif, clinique, mortel, pour découper l'Algérien, et ça a été terminé, quoi. Bravo. J'ai envie de voir le troisième, du coup, parce que le premier était fou, le deuxième était débile. Comment va être le troisième? Pourquoi pas, hein, tout est possible. Après, ils sont dans des catégories un petit peu plus hautes, hein, je crois. Ils sont chez les Feather. C'est cool. Régalade encore. Franchement, je vous disais, cette carte était belle sur le papier, puis les combats étaient vraiment intéressants aussi. C'est le moment de passer au main event avec The General Jonathan Haggerty face à Felipe Lobo, le Brésilien, hein. Donc Felipe Lobo, lui, qui a de l'expérience. Jonathan Haggerty, qui en a un peu plus, je pense aussi. Mais bon, les deux n'ont pas non plus 56 000 combats. Hein. On le sait, les étrangers se battent moins que les Thaïs. Felipe Lobo, lui aussi, hein, s'est battu beaucoup moins. Donc, c'était intéressant. C'était vraiment intéressant comme match-up, même si je pense que, y avait quand même une différence. Hein, de niveau entre les deux, on le voyait surtout quand on avançait dans le round, mais c'était cool quand même aussi, hein. Je vous dis, il s'est quand même battu contre des cinglés, hein. Il s'est battu contre Yod, il s'est battu contre Nongo, il s'est battu contre Sam Petch Fertex, qu'il a battu, hein. Enfin, je veux dire, il a battu des zinzins, quoi, Felipe Lobo. Beau combat, beau match-up sur le papier, et puis combat qui a tenu ses promesses en même temps, mais il n'y avait pas de problème à ce combat. Ce combat était parfait. Premier round, Haggerty, c'est lui qui pousse en premier contre les cordes et qui travaille ses feintes. Alors ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne voit pas énormément, je trouve, chez One. En pied-point avec les petits gants, quand ça part en méga violence et qu'on veut du gros finish rate poussé par vous savez qui. Des fois, on ne travaille pas énormément les feintes, et puis Haggerty l'a fait, et puis ça m'a fait plaisir, parce que travailler des feintes, c'est aussi travailler son adversaire, préparer ses coups pour préparer un knockdown ou un KO. Hein, il cherche son range aussi, il prend son temps, clairement l'expérience du champion. Lobo est très attentif, hein, aussi pour les counters, on voit qu'il en veut, on voit qu'il va les chercher, on voit qu'il veut les placer. Il circule bien quand Jonathan Haggerty pousse contre les cordes, et quand c'est Lobo qui corner Haggerty, il travaille les combinaisons anglaises au corps, et je trouve que là, par exemple, c'est Haggerty qui squatte un petit peu, hein. Il disait que justement Lobo, il trouve que Haggerty est très très fort quand il avance vers vous, par contre au niveau des counters et quand il squatte et qu'il se retrouve un peu en position de recul, c'est pas forcément le meilleur. Alors comme je vous le disais, je trouvais que Haggerty des fois squatte un petit peu, alors des fois il est à l'aise, hein. C'est possible qu'il soit à l'aise, moi je vois ça avec ma vision de fan, avec ma vision de viewer. Lui, si ça se trouve dans sa tête, il boit le thé, hein. Il est tranquille dans les cordes, mais encore une fois, Lobo, quand quand Haggerty réussissait à sortir des cordes, c'était Lobo qui poussait Haggerty dans les cordes dans le premier round. Haggerty, encore une fois, je vous le dis, reste statique et finit par s'asseoir dans les cordes après que Lobo ait vraiment poussé. Hein. C'est l'arbitre Olivier Cos qui a dû pousser pour un knockdown. Je vous le dis, il est resté trop statique, peut-être qu'il était bien, mais la deuxième fois, sur le deuxième assaut de Lobo, il s'est fait enchaîner sur les combinaisons, la tête qui passait de la droite à la gauche, même s'il gardait sa garde, il en a pris énormément dans le corps et il a fini par s'asseoir dans les cordes. Premier knockdown pour Lobo, énorme moment pour le Brésilien, premier round clair pour le Brésilien. Y a-t-il laissé beaucoup de cardio? Alors ça, c'était la grosse question à se poser. Mais ce moment-là, je vous avoue qu'on avait le cœur qui faisait du palpitant, hein, parce que c'était, est-ce que John Haggerty va se faire finir dans le premier round par Lobo? Ça aurait été débile. Deuxième round, Lobo va recommencer à pousser contre les cordes et passer des combis de bas en haut, mais Haggerty, cette fois-ci, a retenu la leçon et counter direct. Alors là, c'est ça qui me donne aussi un petit peu la puce à l'oreille, c'est que quand je vous disais que je trouve que Haggerty squattait trop, c'est aussi parce que dans le deuxième, ben, je pense que son corner lui a dit genre, il va falloir que tu répondes ou il va falloir que tu circules, que tu envoies du type quelque chose, mais tu ne peux pas rester là. Ça s'est clairement mal passé pour toi dans le premier. Tu t'en es sorti, mais dans le deuxième, il va falloir répondre. Et puis là, Haggerty a été plus vigilant au niveau des counters. Il a sorti des cordes en poussant. Lobo se retourne, se retrouve de l'autre côté du ring dans les cordes. Et là, on voit que Haggerty arrive directement à mieux respirer, hein, ça va mieux pour lui, il peut mieux travailler. Alors lui, il commence à travailler des coudes dans le clinch, etc. Et Lobo, directement, je trouve que dans le clinch, c'était Lobo qui était plus en danger. Mais il est toujours là, hein, les deux. Le deuxième round commence à être un round de folie. Je vous dis, c'est un des plus gros rounds, vraiment à date de l'année chez One. C'était magnifique. Les deux clairement voulaient se tuer. Et c'est Lobo qui est tombé premier, mais c'est relevé direct. Hein, Haggerty pousse. Lobo mange énormément de 1-2 et de jab. Hein, Haggerty les place très bien. Lobo pousse dans les cordes et travaille au corps. Haggerty commence à le charrier, hein, et à le taunter et répond avec des coudes. On voit que Haggerty veut finir avec un gros coude. Clairement, round de débile mental. Lobo baisse trop la tête. C'est là où on commence un petit peu à voir, je trouve, la différence de niveau de discipline et de fight IQ entre les deux. Un petit peu de baisse de régime au niveau de la discipline pour Lobo. Hein. Je le vois beaucoup baisser la tête au niveau de ses déplacements. Mais on se rend en compte coup pour coup. Alors ça, au niveau du cœur, les deux y étaient à 100%. Slugfest, Brawlfest de Zinzin, les deux vont-ils rentrer dans le troisième épuisé combat de Warrior? Troisième round, on prend un petit peu plus son temps et c'est normal, hein, c'est possible qu'on aille jusqu'au cinquième. Prenez votre temps les gars, besoin de mettre un rythme un peu plus posé, un peu plus calme. Calmons-nous, réfléchissons, quelles seront les prochaines attaques. Mais ça va finir très vite avec un one shot. Droite directe de Haggerty qui touche Lobo au niveau de la tempe, se relève cash, mais en se relevant clairement, était en train de tituber. Hein. Il a déjà, en se relevant, il ne s'est pas relevé depuis son cul. Il s'est d'abord posé sur ses genoux et quand il s'est relevé, on voyait les jambes qui fléchissaient un petit peu et Olivier Coste a arrêté directement le combat. Alors, l'a-t-il arrêté trop tôt? Non, je ne pense pas, parce que ça pouvait sentir la méga punition et le deuxième knockdown derrière. Bon, après, ça passe pour un KO parce que l'arbitre l'arrête directement et dit c'est fini. Et clairement, Lobo avait beaucoup de damage sur sa face et puis il a galéré à se relever. Il a galéré à se relever, le fait qu'il titube, etc. Il faut prendre soin de la santé des combattants. Et quand vous voyez quelqu'un qui a vraiment du mal qui fait du chicken dance un peu, c'est dangereux parce que c'est qu'il s'est déjà mangé limite un KO debout, hein, qu'il s'est peut-être mangé une concussion, une commotion cérébrale. Donc faut faire attention à ça. Et moi, ça me choque pas tant que ça. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres arbitres qui l'auraient laissé traîner un petit peu pour voir si Lobo aurait pu pousser encore un petit peu? Oui. Il y en a qui l'auraient fait. Est-ce qu'on aurait voulu le voir? Je sais pas honnêtement. Moi, ça me va que ce soit fini comme ça parce que on a eu un deuxième round complet débile. Et on a eu quand même un combat en trois rounds, même si le troisième aura été vite. Lobo est entré aussi trop nonchalamment dans la zone de Haggerty. Trop de nonchalance, il s'est fait sniper directement. Il n'a pas préparé son crochet, comme je vous le disais, préparer les coups. Les coups qui font mal, de type le gros crochet, la grosse droite directe, le high kick, etc. En pied-point, comme en MMA, ça se prépare. Ça se prépare, vous le préparez, c'est des combinaisons que vous préparez ou alors des tactiques que vous préparez à l'avance au préalable et pour lesquelles Enfin, vous aussi, vous pouvez préparer pendant le combat en vous adaptant, mais ça se prépare. Et lui, il est rentré directement avec un crochet, avec vraiment sa tête grande ouverte. Et je pense que Haggerty, lui, était chaud pour les counters, hein, comme je vous le disais, même s'il squat, qu'il n'aurait pas dû squatter à un certain moment, notamment dans le premier round, contre les cordes, etc. Mais quand il a fini par être plus en confort là-dedans et plus réfléchi, je pense qu'il préparait ce counter qui faisait mal et puis il l'a bien passé et ça a été une catastrophe pour Lobo qui s'est retrouvé vraiment au sol et en très sale posture, comme je vous le dis. Latitude en se relevant, voilà. Combat vraiment, vraiment fun à regarder. Vraiment fun à regarder. Haggerty défend bien sa ceinture. Haggerty est passé par la tempête aussi. Vraiment, il est passé par la tempête. Et puis ça, bravo à lui, respect à lui, parce que c'est pas tout le monde qui peut passer à travers ça. Mais les combattants chez One en Thaï, là, il y en a un sacré paquet que c'est des sacrés bonhommes. Très, très, très tough guys. Tough guys. Beau combat, belle carte et c'était cool. Et c'était cool, mais j'ai vu vite fait que... Alors, deux trucs après ce combat, deux trucs. Déjà, moi vraiment, Lobo, une légende du Muay Thai brésilien moderne, on va dire. Mais peut-être une légende tout court à venir parce que j'aime beaucoup son cœur et puis son style de combat dans la cage, c'est vraiment le fun à regarder. Puis ici, il s'est battu contre des fous, quoi. Donc ça, Lobo, respect à sa carrière à 200%. Haggerty, encore une fois, bravo parce que lui, il fait très, très, très bien son taf. Il vend les combats. Il se combat dans plusieurs disciplines. Hein. Il a été chercher une ceinture en kickboxing. Il est double champ. Les gens l'ont charrié, moi le premier. Hein. Quand il a changé de poids, au final, il l'a très bien fait. Les premières fois, c'était peut-être un peu compliqué, mais maintenant, il gère très bien ce poids-là. Et où va-t-on ? Où va-t-on avec Haggerty ? Avec Lobo, c'est pas grave, ils lui donneront d'autres combats. Il est encore jeune. Quel âge il a ? Je pense qu'il a 30 ans, quelque chose comme ça. Donc, clairement, envie de le revoir. Et One va le mettre quelque part aussi. Parce que ça, comme je vous le dis, c'est un Brésilien. Il faut aller chercher du viewership partout. Il faut alimenter les fans. Il faut leur donner des combats, du plaisir et des gens à supporter. Maintenant, encore une fois, comme je vous disais, c'est quoi la suite ? Jonathan Haggerty, contre qui il veut se battre ? Contre qui il veut se battre ? Alors, attends. Adriano ? Non. Adriano Moraes ? Non, mais en tout cas, il veut faire du MMA. Il a dit qu'il allait passer des triangles à un gars. Ah là là, ça, c'est un peu awkward hein, quand même. Moi, c'est un peu malaisant. C'est un peu malaisant parce que, comme je vous le dis, moi, je suis vraiment... Je suis friand de combats un peu de type cirque, de combats un peu télé, de combats un peu film où on met des mixed rules, etc. C'est rigolo, c'est comme je vous le dis, mais il y en a eu des très mauvais. Hein. Et puis, Sexyama, encore une fois, je l'ai encore dans le fond de la gorge, celui-là. C'était de la merde, c'était horrible, c'était catastrophique, c'était très mal vu de la part de One. Passer au MMA pour Haggerty, chez One, ouais, il va peut-être pouvoir taper 2-3 inconnus, c'est possible, mais là, je sais plus qui est-ce qu'il voulait aller chercher. Bref, un gars quand même bien au-dessus de son niveau, et puis le fait qu'il dise, ouais, je vais te passer 2-3 triangles, ouais. Il disait, ouais, non, mais vous savez pas, behind closed doors, là, derrière le rideau, on travaille. Oui, j'espère bien, mais tu sais, moi aussi, hein, je vais m'entraîner plusieurs fois par semaine à passer des triangles, ça veut pas dire que je vais passer un triangle à Demetrius Johnson, hein. Voilà, c'est pas que je veux me mettre au niveau de quelqu'un qui est professionnel, mais c'est une autre discipline, c'est une autre, c'est différent, hein. C'est un sport différent, tu peux te faire déboîter, mais tu peux aussi gagner en striking, who knows, hein. Mais bon, ça c'est pas ce qui m'intéresse le plus de voir Haggerty passer en MMA, vraiment pas, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? C'était Rod Tang aussi. Ah oui, Rod Tang, par contre, voulait un autre combat contre Haggerty. Alors, oui. Bah ouais, pourquoi pas ? Parce que les derniers combats entre Haggerty et Rod Tang, ça nous a donné des belles guerres et des bagarres légendaires chez One. Quoi. Ça, c'était cool. Donc, pourquoi pas ? Moi, je dis savourons ce combat-là. Déjà, on n'aura pas tout le temps des comme ça. Et c'était un très beau combat. Comme je vous le dis, dans le troisième, Lobo est un peu tombé dans les travers techniques, hein, etc. Mais ça n'empêche que ça a été un très beau combat. Est-ce que je veux voir Haggerty en MMA ? Ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que, encore une fois, vous le savez, chez One, moi je veux qu'il y ait du MMA chez One, mais du MMA de qualité. Si c'est du MMA pour du MMA, je m'en calisse, man. Et de voir Haggerty pour se battre en MMA, c'est juste uniquement pour voir Haggerty se battre en MMA. Pas, il n'y aura pas absolument rien de vraiment bénéfique à que je puisse imaginer maintenant. Hein. Peut-être qu'il y en aura, hein, je me trompe peut-être, mais je vois rien pour l'instant de bénéfique à le mettre en MMA. C'est ça. Je vais finir là-dessus. Et puis, merci aux combattants pour cette carte qui était vraiment cool. Demain, voilà. Ce podcast sort au Canada, à Montréal, East Coast Time, samedi en fin d'après-midi. En France, du coup, c'est quelque part voilà, dans la soirée, dans la nuit. Et demain, j'enregistrerai le podcast pour UFC 298 avec le main event entre Volk et Ilia Topuria. Enfin, Volk est de retour chez les Feather pour défendre sa ceinture et ça me pump. Merci à vous pour cette écoute. Si ça vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme préférée. Si jamais ça vous a vraiment plu, laissez un avis ou whatever, parlez-en à votre cousin, à votre grand-mère et à votre collègue de travail. Voilà, hein, s'il parle trop, dites-lui, écoutez le Guillotine Podcast. Ciao les amis, merci beaucoup. Bye. At the end of the day, it is what it is.